Domingo, cadê?
C'est pas du vent. C'est pas du vent.
Cadê?
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un chiffre effarant qui devrait tous nous mobiliser. En moins de 50 ans, les deux tiers des animaux sauvages ont disparu. Plus précisément, entre 1970 et 2016, selon le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature. Et le phénomène s'accélère. Quelles sont les causes? Eh bien, les forêts rasées, les zones humides comblées, les océans surexploités et nos villes qui n'en finissent pas de s'étaler. Mais comment enrayer ce phénomène vertigineux qui, à terme, menace notre propre espèce? Car oui, il faut le répéter encore et encore, nous dépendons du vivant qui nous entoure pour nous nourrir, nous soigner, respirer, nous abreuver. Il y a une solution qui prend de l'ampleur, multiplier les aires protégées. Presque tous les pays du monde en ont, mais encore faut-il que la protection soit réelle dans les parcs et les réserves naturelles, qui dans beaucoup de cas ne se résume qu'à un tracé sur une carte. C'est justement le principe de la liste verte créée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, un label mondial très exigeant. On vous dit tout, tout de suite, avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Thierry Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Air Protégé de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe donc, de cette liste verte qui a été créée en 2014?
Alors la liste verte, c'est en fait un standard mondial de qualité des espaces protégés, qui est le premier à l'échelle internationale et qui concerne l'ensemble des dispositifs de protection, que ce soit des parcs nationaux, des réserves, y compris les sites du patrimoine mondial. L'objectif étant de reconnaître sur cette liste les sites les mieux gérés à l'échelle mondiale et qui font l'objet d'une gouvernance équitable.
Alors, il y a plus de 50 indicateurs à cocher, hein, une exigence évidemment qui donne de la crédibilité au principe de cette liste verte. Alors, il y a actuellement 46 sites qui sont sur cette liste, 46 sites de 14 pays. Bonjour, Laure de Berre.
Bonjour.
Vous êtes responsable des aires protégées au comité français de l'UICN. Alors, parmi ces 46 sites, il y en a 14 qui sont français. En fait, la France est le pays, on va faire cocorico, hein, qui a le plus de sites que assez aujourd'hui.
À ce jour, oui, c'est exact, puisque nous avons 14 sites donc déjà inscrits sur la liste verte, 3 parcs nationaux, 3 réserves biologiques qui sont des réserves forestières gérées par l'ONF, un espace naturel sensible géré par un département, un parc naturel régional, celui des Vosges du Nord, le parc naturel marin d'Iroise, un parc marin de la Côte Bleue, un parc assez original de point de vue de la gouvernance surtout, 2 RNCFS et 2 réserves naturelles.
RNCFS.
Alors, réserve nationale de chasse de faune sauvage.
D'accord.
Et 2 réserves naturelles nationales.
Oui, les acronymes, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Et en fait, tous les écosystèmes sont représentés à travers ces 14 sites.
Oui, de manière pratiquement équivalente. On retrouve des écosystèmes forestiers, de montagne, marins en peu moindre mesure, mais on a quand même pas mal de sites marins, ou encore de milieux ouverts, ou de zones humides.
Et du coup, pourquoi cet engouement en France pour cette liste verte? C'est le comité français qui a fait du bon boulot
Oui, je crois. Et puis, on a quand même énormément de statuts d'air protégé en France qui fonctionnent bien avec des méthodologies qui sont bien appliquées, des gestionnaires très investis, parfois avec beaucoup de moyens. Et c'était l'occasion de faire reconnaître un petit peu les bons élèves parmi les Français et aussi de leur faire découvrir une méthodologie qui est celle de la liste verte et qui peut aussi être mise en un petit peu en relief des méthodologies qu'ils utilisent déjà par ailleurs pour mettre en place leur plan de gestion.
Alors cette liste verte, ben justement, c'est toute une série de critères, on l'a évoqué, et toute une démarche. C'est très très exigeant. Alors comment réussir à en faire partie, à être inscrit dessus? Nous sommes en ligne avec Lina Sarkis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet pour la réserve du Chouf dans le centre du Liban, une réserve donc qui a été créée en 1996 et qui est connue entre autres pour ses cèdres millénaires. Cette réserve s'étale sur 5% du territoire. Alors vous avez monté le dossier pour que cette réserve soit inscrite sur la liste verte, ce que vous avez obtenu en 2018. Alors tout d'abord, faites-nous rêver, à quoi ressemblent les paysages de la réserve du Chouf?
Bonjour, bonjour tout le monde. Avant de parler de la réserve du Chouf en tant que réserve et de la liste verte en tant que parcours, je voudrais vous emmener en petite promenade dans le cœur de cet endroit magique, cet endroit où il y a les forêts des cèdres. On va visiter ensemble et on va marcher un peu sur les petits sentiers entre les arbres et on va se recueillir devant un arbre qui porte le nom du poète Alphonse de Lamartine, un arbre que tout le monde demande à visiter, il est assez ancien, et où Alphonse de Lamartine a récité son poème qui s'appelle « Le cœur des cèdres du Liban ». Et il a dit, j'ai un petit extrait, « Aigle qui passait sur nos têtes, allez dire au vent déchaîné que nous défions leur tempête avec nos mains enracinées. » Et ça raconte un peu l'histoire de la réserve. Cette réserve, comme vous avez bien dit, a été créée en 1996 pour protéger ses racines. Alors ça porte beaucoup pour le Liban, les cèdres, c'est l'emblème du Liban, vous savez que ça apparaît sur le drapeau du Liban, le cèdre est dedans. Cette réserve a trois magnifiques forêts. Et puis, il y a les 22 villages qui sont nichés dans la montagne du sud du Mont-Liban et l'ouest de la Beka.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de candidater à la liste verte ?
Il y a deux volets. Le premier, pour montrer aux autres aires protégées de la région et du Liban, montrer qu'on, malgré toutes ces conditions lamentables qui nous entourent, nous sommes capables de surmonter les obstacles et faire partie de ce réseau assez prestigieux. Le deuxième volet est centré sur la réserve et on essaie toujours d'expérimenter des moyens pour progresser et renforcer nos capacités. Le processus qu'on a déjà entrepris pour arriver à la liste verte va nous aider à renforcer nos capacités de gestion. C'est surtout ça.
Merci beaucoup Lina Sarkis pour votre témoignage et bon courage à vous parce que se mobiliser pour la préservation de la biodiversité au Liban en ce moment, ce n'est pas simple. Thierry Lefebvre, vous écoutiez le témoignage de Lina Sarkis. Vous me disiez en préparant cette émission que en fait, le plus important dans l'inscription à la liste verte, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin.
Exactement. En fait, la liste verte, au-delà d'être une certification de la qualité et de la performance des espaces protégés, c'est surtout une communauté d'acteurs et qui sont engagés pour améliorer la gestion, la gouvernance de leur site. L'idée, c'est de s'engager de manière volontaire dans une voie d'amélioration de la gestion. Et pour cela, donc, on peut bénéficier grâce à la communauté de la liste verte, qui est composée de gestionnaires, d'experts nationaux et internationaux, d'appui technique. Donc, on s'engage pour un certain nombre d'années, en l'occurrence, c'est 5 ans. L'idée, c'est pas d'être tout de suite sur la liste verte dès qu'on candidate, bien évidemment. Si c'est possible, c'est très bien. C'est aussi de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'appuis techniques, scientifiques, qui permettent de progresser pour atteindre ces standards de qualité et de niveau international.
Allez, une petite pause musicale avec Camille Yarbrough dans C'est pas du vent sur RFI.
We've come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. So rare and so.
deal with what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure not glad you're mine. I have to praise you when you hold me, when you work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make me rise.
L'américaine Camille Yarbrough dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI.
Tant qu'on continue de penser la forêt comme un poumon, on n'a pas commencé à comprendre le problème. C'est bien l'ennui de la réifier et de considérer que la forêt est un organe qui remplit une fonction pour l'humanité.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
La forêt, c'est pas quelque chose qui est utile au monde, c'est le monde en tant que tel.
Nous parlons de la liste verte aujourd'hui avec nos invités, un label mondial créé par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui permet de valoriser les aires protégées qui ne sont pas juste des tracés sur des cartes. Il faut répondre à une cinquantaine de critères, on l'a dit, qui valident la protection effective de la biodiversité, mais aussi des retombées pour la population locale. Situé dans le sud-ouest du Costa Rica, sur la péninsule d'Ossa, le parc du Corcovado n'en fait pas encore partie. Pourtant, ses 426 km² terrestres et ses 55 km² marins abritent 2,5% de la biodiversité mondiale. Son accès et le nombre de touristes admis chaque jour sont réglementés. Les hôtels aux alentours ont un impact limité et le tourisme profite aux populations locales. Reportage.
Bienvenue au parc national Corcovado. Vous êtes dans le secteur de la Sirena, un des plus beaux endroits du pays.
Et vous vous appelez comment ?
Mon nom est Carlos Luis Castillo.
Et quelles sont vos responsabilités ici ?
Mon travail ici est de contrôler le tourisme et faire respecter les règles dans la zone publique du parc Corcovado.
Alors tout d'abord, c'est quoi les dimensions de ce parc ?
Le parc fait 42 000 hectares, ce qui est très grand à l'échelle de notre pays.
Donc ça, c'est pour la biodiversité terrestre, c'est le parc terrestre, et il y a aussi une dimension parc marin ?
Oui,
nous avons un territoire marin de 5375 hectares qui commence au niveau du parc marin Marino Baiena, un peu plus au nord, et qui s'étend jusqu'ici au parc national Corcovado.
Et une fois qu'on est dans le parc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un comportement à tenir. On n'a pas le droit, par exemple, de sortir en dehors des sentiers.
Non, il y a un règlement plutôt strict. Vous devez uniquement marcher dans les sentiers qui sont balisés par des panneaux. Il est interdit de fumer et vous devez également venir vous enregistrer à la station en arrivant.
Et on ne peut pas venir sans guide.
Vous êtes obligé de rentrer avec un guide autorisé par la CINAC, le Système national des aires de conservation. Il est obligatoire que ce guide soit local. Il est possible de venir avec un guide extérieur, mais celui-ci devra être accompagné par un local.
Parce que c'est important, dans la gestion du parc, que le tourisme ici profite aux populations locales.
Sí, claro, porque digamos, ellos, se ven, digamos, por medio del turismo, ellos también tienen un beneficio.
Oui, bien entendu. Il est essentiel que les populations locales profitent pleinement du tourisme qui vient ici. En plus, ces populations nous aident à contrôler les allées et venues, étant donné que nous nous trouvons dans une zone protégée.
Et comme nous respectons le règlement, nous sommes venus avec notre guide Eida Fletes qui fait une petite pause là tranquillement à la réception. Elle boit un petit café. Eida, hola.
Hola.
J'ai à vous voir parce qu'il faudrait qu'on aille se promener dans le parc quand même.
Sí, vamos a hacer la caminata en el parque.
Oui, allons marcher dans le parc. Il y a également Carlos Ruiz, le ranger, qui va nous accompagner. Donc ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains.
Mais je ne suis pas inquiète. Alors vous avez une histoire particulière avec ce parc, mais vous allez nous raconter tout ça en marchant dans la forêt à la recherche des animaux.
Claro que sí, con muchísimo gusto les contaría la historia de mi casa.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais vous raconter l'histoire de ma maison, de ma famille et du parc national Corcovado qui est toujours ma maison.
On y va. Eida, comment ça se passe là? On va faire un tour, on va marcher combien de temps?
Ok, vamos a caminar aproximadamente 3 horas.
Alors on va marcher environ 3 heures à peu près. Là on est à la station Sirena qui avant était une forêt.
Este bosque alrededor que...
Et la forêt qui nous entoure juste ici est une forêt très très jeune. Et avant que soit créé le parc national, ici c'était que du bétail.
Et là, Eida, le jeu, c'est de ne pas trop parler pour essayer d'apercevoir des animaux.
Bueno, hay una ventaja en el parque y el lugar donde estamos.
Il y a un avantage dans l'endroit dans lequel on se trouve dans le parc, c'est que les animaux sont plutôt habitués à voir des humains.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ampleur de la biodiversité qu'il y a ici à travers quelques chiffres?
Bueno, en el parque podemos no ver porque hay especies que son nocturnas, ¿verdad?
Eh bien, au niveau du parc, il y a énormément d'espèces. On ne va pas pouvoir tous les voir, il y a beaucoup d'espèces qui sont nocturnes. Des mammifères, il y en a 124, des oiseaux 365, les reptiles 71, les amphibiens 41, les arbres plus de 500 espèces, et si on va encore plus loin, il y a 50 000 espèces de champignons.
Quels sont vos préférés à vous?
Ah, wow, felinos, el jaguar.
Ah, moi, c'est les félins. Le jaguar, c'est mon préféré.
Vous pensez qu'on peut en apercevoir, là, aujourd'hui?
Wow, eso sería de verdad que muchísima suerte.
Wow, il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance. En fait, il y a très peu de chance qu'on en voit ici dans le Corcovado. En fait, le jaguar essaye de ne pas être vu. Donc, il est possible que lui nous voit, mais nous, on le verra pas.
Aïda, vous dites que c'est votre maison, le parc du Corcovado, parce que vous êtes née dans le parc?
Si, mi Corcovado.
Oui, le Corcovado, c'est l'endroit où j'ai grandi, c'est là où j'ai vu mes frères et sœurs naître et grandir. Et je crois que c'est de là que vient mon amour pour la nature.
Vous, vous avez une histoire particulière avec ce parc, puisqu'il a été classé donc parc national en 1975. Et à l'époque, vous habitiez dans ce parc.
Sí, el parque fue creado sí, en 1975.
Oui, c'est exact. Le parc a été créé en 1975 et mes parents sont arrivés ici dans les années 60 et moi je suis née en 1964.
Et entonces,
1975, qui a été l'année de création du parc, a été une année vraiment triste pour moi puisque c'est l'année où mon père a disparu en mer. Parce que je pensais que si mon père revenait et qu'il ne me trouvait pas là, jamais il ne me retrouverait.
Alors vous dites ça parce que, à cause de la création du parc, vous avez été obligé de quitter votre maison. Vous avez été expulsé du parc, en fait.
Sí, eso. El gobierno en el 75.
Oui, le gouvernement en 1975 a décidé de transformer le Corcovado en parc national et que toutes les familles devaient alors partir. Et nous, on a dit non, on ne va pas se laisser expulser comme ça.
Habíamos aproximadamente unas 2000 personas.
On était environ 2000 personnes, 200 familles à vivre dans le parc national Corcovado.
Y luchamos entonces hasta
el Et on a lutté pendant un an et en 1976 les gens ont commencé à sortir du parc.
Vous avez eu des compensations? Comment ça s'est passé? Vous êtes allé habiter où après?
Sí, se logró que por lo menos nos...
Oui, on a réussi au moins à obtenir une petite compensation, ce qui fait qu'on a pu acheter une autre propriété dans une autre communauté à Sierpe.
Et du coup, pour vous, la création de ce parc, ça a été une rupture dans votre vie?
Al principio, cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años.
Oui, au début, quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'étais vraiment très triste parce que je comprenais pas ce qui se passait. Ça a été comme une rupture et c'est comme si j'avais abandonné mon père. Mais maintenant, aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment très heureuse que ce soit le parc national Corcovado.
Porque lo puedo ver tal como era cuando yo era niña.
Parce que j'ai l'occasion de le voir comme je le voyais quand j'étais petite. Il n'y a pas de grands édifices, il n'y a pas d'autoroute. C'est comme si je revenais à ma vie passée et je suis ici dans ma maison.
Il est malheureusement temps de repartir. Après 45 minutes de marche, rythmée par le son régulier des chicharas et quelques rencontres avec des singes écureuils ou des lézards Jésus-Christ, et oui, ils marchent sur l'eau, nous arrivons sur la plage. Le gris du sable contraste avec le vert vif de la forêt et le turquoise de l'océan Pacifique. C'est magnifique. Mais ce qui nous inquiète, c'est la hauteur des vagues. Le bateau qui vient nous chercher a du mal à approcher. Il faut sécuriser le matériel technique dans des sacs imperméables, courir jusqu'au bateau avant l'arrivée de la vague. Finalement, tout se passe bien.
Attention, ça va taper.
Nous longeons le parc du Corcovado pendant une trentaine de minutes, puis le bateau nous redépose sur la plage. Un vendeur de noix de coco nous attend avec leur jus rafraîchissant. L'occasion d'une dernière discussion avec Eida autour d'une question. Finalement, la création de ce parc, ça a été une bonne ou une mauvaise idée?
C'est vrai qu'on a vécu énormément de changements depuis 45 ans, mais chaque jour, chaque année, on peut voir qu'on en profite un peu plus. Que ce soit ma famille ou toutes les autres familles de Puerto Jiménez, on a des bénéfices de ce parc national qui a été créé, que ce soit en tant que guide, mais aussi à travers l'association de développement de la ville de Karate et en tant que producteur.
Donc aujourd'hui, oh là là, il y a un vol de pélican là, absolument magnifique. Donc aujourd'hui, vous vous dites que c'est un bénéfice pour les communautés parce que ce tourisme, cet écotourisme, bénéficie réellement aux populations locales. D'ailleurs, dans le parc national du Corcovado, il y a une association qui gère tout ce qui concerne les touristes, la nourriture, le logement, tout ça, ça revient aux populations locales financièrement.
Oui, exactement. Le parc national Corcovado et spécifiquement la station Sirena est géré par l'association de développement intégral. Il gère les services qu'on appelle non essentiels, à savoir l'hébergement et la nourriture.
Et, par exemple, les producteurs, hay campesinos.
Il y a également des producteurs, des paysans qui vivent aux alentours du parc. Alors eux, ils ne travaillent pas comme guides, mais ils bénéficient des avantages puisqu'ils produisent pour le restaurant du parc.
Donc finalement, c'est un peu un pied de nez de l'histoire. Au début, vous vous êtes dit, quand vous aviez 14-15 ans, on me chasse. Et aujourd'hui, avec l'expérience, quel recul avez-vous sur cette histoire ?
Claro, realmente fue un cambio.
Oui, on a vécu beaucoup de changements pour nous, les familles qui ont été expulsées. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui un bénéfice économique, sinon environnemental, puisque la forêt est préservée. Donc on peut dire, pour résumer, que ça a été un changement sentimental, économique et environnemental.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por visitar mi casa.
Merci à vous d'avoir visité ma maison et j'espère que vous allez raconter au monde qu'ici il y a 2,5% de la biodiversité mondiale.
Gracias a ustedes.
Thierry Lefebvre, je rappelle que vous êtes responsable du programme Air Protégé à l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
Je trouve que c'est un très très bon exemple d'une aire protégée qui fonctionne effectivement très bien sur toutes les dimensions qui intéressent de près la liste verte, donc à savoir la gouvernance. Ce qu'on veut, c'est que les aires protégées soient les plus inclusives possibles, qu'elles prennent en compte les populations locales dans leur gestion, ça va de soi, que la qualité de gestion soit également au rendez-vous avec des moyens adéquats et qu'elles produisent des résultats effectifs. Il me semble que le parc national du Corcovado répond pleinement à ces différents critères de la liste verte. Alors il n'est actuellement pas engagé dans le dispositif, mais elle pourrait tout à fait être un candidat idéal. Et l'idée, c'est qu'une fois engagés, les dispositifs, quels qu'ils soient, de parcs nationaux, de réserves ou d'aires conservées, puissent être un petit peu des modèles pour l'ensemble de la communauté de la conservation. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est créer un effet d'entraînement des bons sites bien gérés et performants qui puissent servir l'ensemble des dispositifs d'espaces protégés à l'échelle mondiale.
Laure Debert, je rappelle que vous êtes responsable des aires protégées au comité français de l'UICN. Vous connaissez le parc du Corcovado. Vous m'avez dit en préparant cette émission que c'était l'une des plus belles balades de votre vie.
Oui, absolument. Il y a 10 ans, je me suis rendue au Costa Rica et j'ai eu l'opportunité de pouvoir visiter le parc du Corcovado. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des tas d'espèces qu'on voit d'habitude uniquement sur des photos et qu'on peut rencontrer au Costa Rica, tellement les sites sont bien gérés et les animaux sont capables de se promener sans aucun danger.
Oui, c'est vrai que dans cette émission, on a eu la chance de faire pas mal de reportages et celui-là nous a particulièrement marqué. Alors comment est-ce que vous réagissez à ce reportage que l'on vient d'entendre ?
Justement, certains aspects de la liste verte, certains critères de la liste verte sont très bien décrits par la personne qui travaille dans le parc, notamment pour les retombées, les services écosystémiques qui sont les retombées pour les populations locales, notamment en matière de tourisme ou encore en matière d'élevage, comme elle a pu nous l'expliquer. Et même si à la base, il y a eu une lutte contre la création de cet espace, ensuite on a pu constater, comme elle l'explique bien, des négociations, puis une acceptation et au final, une appropriation. Et les personnes qui avaient été expropriées à la base sont les meilleurs ambassadeurs de la création et de la gestion de ce site aujourd'hui.
Oui, parce que l'un des critères conservés, c'est bien, mais si c'est pour exclure la population et se mettre... Il y a beaucoup d'endroits, malheureusement, comme ça dans le monde, où les personnes qui sont pour protéger se mettent à dos un peu les populations locales, soit parce qu'elles sont évacuées des espaces, soit parce qu'elles sont mises autour, mais du coup, elles n'ont plus accès aux forêts pour, par exemple, chasser, se nourrir, etc. Ça crée des conflits. Et l'idée, dans les critères de la liste verte, c'est qu'il y ait justement une intégration des populations locales.
Absolument. La meilleure gouvernance possible est le résultat finalement de concertation et même finalement d'initiatives locales de plusieurs personnes de différents horizons qui se mettent ensemble pour créer un espace protégé. Ça, on a pu le constater en France sur le parc marin de la Côte Bleue notamment, qui est un site inscrit sur la liste verte.
Qui est dans le sud de la France.
Qui est dans le sud de la France, qui est un espace marin.
Sur la Méditerranée,
sur la Méditerranée, exactement, en face de Marseille, qui a été créé à l'initiative de personnes qui avaient pour but de protéger l'environnement et aussi, surtout, beaucoup par les pêcheurs professionnels. Et aujourd'hui, on voit que c'est un succès parce que ce sont les pêcheurs et les spécialistes naturalistes qui ont mis en place des zones dans lesquelles on ne pêche absolument pas et qui permettent le recrutement de poissons qui vont grossir suffisamment pour permettre à la pêche d'être durable dans cette zone. Et ça, pour nous, c'est vraiment un exemple très intéressant à mettre en valeur via le réseau de la liste verte.
Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on laisse des zones sans pêche, ce sont des lieux de reproduction pour les poissons et ça nourrit les espaces où on est autorisé à pêcher. On peut aussi, ça s'appelle faire des zonages, mais on peut aussi faire des calendriers.
Absolument. Là, je connais moins la question sur le parc marin de la Côte Bleue, mais en effet, il y a surtout des zonages qui sont très intéressants à étudier, parce que ce sont des initiatives en plus de collectivités. Le gouvernement n'a pas pris vraiment part dans cette création de sites. Aujourd'hui, si, via les arrêtés préfectoraux qui permettent de réglementer la pêche. Mais l'initiative, en tout cas, a été des collectivités, des pêcheurs et des naturalistes.
Et c'est dans ces cas-là que ça marche le mieux.
Absolument.
Une pause musicale en compagnie des Maliens du Songoï Blues.
Kuluzum jiben argun meri futu irbunda wiji futu irfaranda ngare ibobo watikul kalasara jina nga madam yer ma koi nordi mali yer kani gari nordi mali yer ma koi nordi mali yer kani gari nordi mali afoyo koi Burkina afoyo koi Moritani in the Niger.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Bonjour Soraya Mokhtari.
Bonjour.
Vous êtes directrice du parc national de Toubkal au Maroc, c'est à 70 km au sud de Marrakech. Le parc de Toubkal qui tient son nom du plus haut sommet de l'Afrique du Nord, hein, qui culmine à plus de 4000 mètres, abrite des écosystèmes caractéristiques du Haut Atlas occidental. Alors décrivez-nous un peu les paysages que l'on peut observer dans le Toubkal.
Donc c'est un parc vraiment de très hautes montagnes, vous venez de le dire. Il est surtout reconnaissable par ses très hauts sommets, les plus hauts sommets de l'Afrique du Nord, qui culminent presque tous au-dessus de 3000 et le plus haut à 4167 mètres. Donc il y a des paysages des fois assez lunaires, très rocheux, puisque c'est la haute altitude. Mais à côté de ça, on a également beaucoup de rivières qui prennent naissance dans le parc, avec des gorges, également un lac d'altitude, le lac d'Ifni. Et on peut trouver vraiment de la végétation qui est caractéristique de la haute altitude, avec des fois des prairies humides qu'on peut trouver vraiment en très haute altitude.
Alors vous avez déposé votre candidature cette semaine, hein, c'est très très frais, pour figurer sur la liste verte. Pourquoi ?
Ben en fait, même si ça a été au départ, disons, une envie de notre département des eaux et forêts, pour nous, ça a été vraiment un honneur de pouvoir le faire. Déjà pour avoir une reconnaissance, ça c'est sûr, au niveau international, mais pas que. On voulait aussi la population qui vit autour et qui également utilise les ressources du parc s'approprie vraiment ce territoire et puisse en être fière. Donc avoir également une reconnaissance pour cette population-là, pour qu'elle puisse reconnaître vraiment le territoire d'exception dans lequel elle vit. Et pour nous, en tant que direction de parc, c'était surtout aussi pour essayer d'aller vraiment se tourner vers l'excellence. On essaie de trouver quelles sont les lacunes et comment y remédier pour qu'on puisse reconnaître le travail que l'on fait depuis déjà des années. Et essayer encore de s'améliorer pour vraiment être au même niveau que les parcs nationaux au niveau mondial.
Oui, parce que vous me disiez, en préparant cette émission, il faut quand même remplir le dossier, hein, ça prend du temps. Et même si vous n'avez pas peut-être autant de moyens que d'autres parcs ou d'autres réserves, eh bien le fait de lister ces critères, ça tire vers le haut, quoi. Ça met les choses au clair et ça crée de l'ambition.
Exactement. Donc, on s'est rendu compte, vu le nombre d'indicateurs qu'il fallait absolument remplir et essayer vraiment de donner une réponse qui pouvait satisfaire au niveau de la liste verte de l'UICN, on s'est rendu compte qu'il y avait certains aspects qu'il fallait vraiment qu'on puisse absolument développer et parfaire. Donc là, c'était vraiment un très très bon exercice. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. On a quand même 50 indicateurs qu'il a fallu enseigner. Trouver également des preuves pour pouvoir justifier l'argumentaire que l'on mettait en place. Mais pour nous, c'était vraiment un travail qui nous a permis de savoir là où on avait quelques lacunes et comment on peut essayer de remédier. Et des fois, on se rend compte, on a l'impression que ce que l'on fait, ce n'est pas forcément quelque chose de très important. Et au contraire, on se rend compte que ça peut être un argument qui peut être reconnu au niveau de l'UICN. Donc c'est assez gratifiant quand même de se dire qu'on fait des choses aussi qui peuvent être reconnues sur le plan international.
Et on ne peut pas tricher puisque vous attendez, le contexte évidemment est un petit peu particulier pour voyager en ce moment, mais vous attendez la visite d'un examinateur.
Exactement, donc c'est fait partie du processus pour pouvoir obtenir ce fameux label. D'abord évidemment donc soumettre cette candidature qui va être examinée par rapport à toutes les pièces que nous avons fournies, et ensuite attendre donc la visite d'un examinateur. Donc on ne sait pas encore trop quand, ça c'est sûr, avec le contexte actuel. Donc on espère quand même que les choses vont s'arranger pour tout le monde en fait par rapport à ce problème de crise sanitaire, et qu'ils puissent donc visiter le site et voir de visu ce que nous, on a annoncé uniquement sur un plan informatique.
Et quand bien même il y a des critères que vous ne rempliriez pas, vous avez 5 ans pour vous y conformer. Donc, en fait, c'est aussi un stimulant.
Exactement, mais même déjà sur le portail qu'on nous demande donc d'utiliser pour pouvoir remplir notre candidature, des fois quand on a l'impression qu'on ne remplit pas forcément un critère, on nous demande quel plan d'action vous comptez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre en fait ce critère-là. Donc déjà c'est assez stimulant de dire ben voilà, même si on n'a pas encore réussi à atteindre l'objectif qui est fixé par le critère, comment on fait pour pouvoir y remédier, et ça nous booste pour pouvoir vraiment atteindre l'excellence.
Merci beaucoup Soraya Mokhtari pour votre témoignage, puis vous nous tenez au courant hein, quand vous serez inscrit sur la liste verte, on en reparlera sur RFI.
Mais j'espère bien, merci beaucoup pour votre invitation.
Laure de Bière, vous observez un peu le même phénomène dans les candidatures françaises. On entendait Soraya Mokhtari qui disait « ça tire vers le haut, faut remplir tous les critères, ça permet de faire un état des lieux ». Actuellement, il y a 9 espaces, je ne sais pas si ce sont des réserves ou des parcs, qui sont candidats en France pour être inscrits aussi sur la liste verte. Il y a aussi des aires protégées, des réserves naturelles au Bénin, en RDC, dans plein de pays en Afrique. Ça, c'est en train de monter en puissance. Et donc en France, qu'est-ce que ça donne? C'est pareil, c'est finalement tout le monde a un peu les mêmes contraintes pour remplir ces fameux critères.
Absolument. On a 50 critères, 50 indicateurs à remplir en France. On a 10 sites candidats en ce moment en France, dont 9 10. Qui ont proposé leur candidature là très récemment au Comité international de la liste verte. Et ils ont dû se conformer aux 3 phases de la liste verte. Qui sont la phase de candidature, puis la phase d'auto-évaluation des 50 indicateurs, qui est vérifiée par l'examinateur dont on aurait parlé. Nous, on parle de rapporteur en France. Mmh. Et ensuite, une fois que le dossier est complet, on le présente au Comité international de la liste verte, qui statue sur l'avis des experts français sur ce dossier.
Et du coup, ça aide certains gestionnaires à prendre conscience d'enjeux particuliers sur leur espace. Vous me parliez, par exemple, de la réserve de la Sainte-Victoire. Donc là, je vais vous laisser nous la présenter.
Absolument. Il s'agit d'une réserve géologique. Donc, son objectif premier est la conservation d'un patrimoine géologique spécifique.
On se trouve, on va dire, où ?
Qui se trouve à pas loin d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, qui a pour mission de protéger des gisements, d'énormes gisements d'œufs de dinosaures, et qui s'est engagé dans la procédure de la liste verte, s'apercevant que les experts qui ont examiné le dossier étaient peu habitués à avoir des valeurs géologiques examinées dans la liste verte. Mais après avoir fait eux-mêmes quelques inventaires de biodiversité, se sont aperçus qu'ils avaient aussi des responsabilités en matière de protection du vivant. Et toute cette démarche liste verte les a poussés à considérer désormais le vivant dans leur plan de gestion et pas uniquement
les autres dinosaures.
Les gisements fossilifères, exactement.
Oui, d'accord. Et donc du coup, ils ont identifié cette richesse de biodiversité à laquelle auparavant ils ne s'intéressaient pas tellement finalement.
Ils n'en avaient en tout cas pas le mandat. Et ils ont décidé de maintenant de se tourner vers ces valeurs naturelles qui n'étaient auparavant pas l'objectif numéro 1 de préservation.
Et quels sont les autres sites qui sont candidats?
Alors, on a encore un espace naturel sensible géré par un département dans l'Essonne.
Ça, c'est pas très loin de Paris.
Non, c'est ça, exactement. 4 réserves naturelles nationales, dont une se situant en Guyane, au large de la Guyane, l'île du Grand Connétable. Encore une réserve biologique dirigée, donc une réserve plutôt forestière, 2 réserves forestières sur l'île de la Réunion. Et le domaine de la Tour du Valat, qui est situé en Camargue, qui est bien connu.
Pas forcément par tout notre auditoire, donc c'est dans le sud de la France, la Camargue. Voilà.
À côté du delta du Rhône, qui est une zone avec énormément d'enjeux. Et 2 sites Natura 2000, dont un qui est exclusivement marin, qui est la baie de Seine occidentale, dans le nord de la France.
Thierry Lefebvre, vous portez un projet ambitieux qui va vraiment intéresser notre auditoire. C'est l'idée d'un réseau francophone autour de cette liste verte. Alors expliquez-nous.
Alors la liste verte, effectivement, aujourd'hui intéresse de nombreux pays et 10 d'entre eux sont francophones, en particulier bien sûr en France, mais aussi en Suisse, au Québec. Et sur le continent africain, nous avons de nombreux pays impliqués aujourd'hui. Alors, les 3 pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, mais aussi en Afrique de l'Ouest, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Puis j'ajoute également Madagascar qui a rejoint récemment l'initiative. Donc on a finalement un nombre de pays suffisant pour envisager de constituer un réseau d'échanges qui réunit à la fois des gestionnaires d'espaces protégés, des experts, des scientifiques, tous intéressés par la liste verte, engagés à des degrés divers, mais qui partagent cette grammaire commune que sont les standards de qualité de la liste verte. Donc on a un langage commun et un autre langage commun qui est le français. Et donc, ces deux langages communs permettent de travailler ensemble à l'amélioration des espaces protégés dans ces 10 pays. Et on l'espère à terme bien plus. Hein. L'idée, c'est bien évidemment d'impliquer l'ensemble de l'Afrique francophone et au-delà, tous les pays de la francophonie. Il y a d'autres réseaux qui vont se constituer aussi, dans la région hispanophone, en particulier en Amérique. Mais ce qui nous intéresse au premier chef, c'est de lancer cette dynamique qui est tout à fait originale, et qui, je pense, est l'une des principales plus-values de la liste verte, de faire travailler ensemble des gestionnaires et des experts de différents pays pour améliorer, partager les expériences, les bonnes pratiques et améliorer la performance des espaces protégés.
Alors, RFI s'adresse justement à la francophonie. Donc, en gros, vous lancez un appel, gestionnaire de parcs, de réserves, etc. Contactez-nous, remplissez les dossiers et tentez votre chance sur la liste verte, c'est ça ?
Exactement, c'est une initiative tout à fait ouverte, volontaire, et donc pour les experts ou des gestionnaires d'espaces protégés qui souhaitent s'engager dans cette dynamique collective, ce réseau francophone et plus globalement dans la liste verte, effectivement, sont tout à fait bienvenus à nous rejoindre. Actuellement, il y a près d'une centaine de personnes qui contribuent à ce réseau. Il y a eu des échanges de par le passé, très récemment notamment entre le Liban, des experts français, puis des échanges entre la France et le Maroc actuellement pour soutenir des candidatures sur la liste verte. On peut démultiplier comme ça toutes les initiatives. Ça peut aussi se traduire par des jumelages de site à site, des échanges d'expériences entre experts. Donc oui, effectivement, venez nous rejoindre le plus nombreux possible dans cette dynamique d'échange collectif. Et puis, donc, on sera à votre disposition, bien évidemment, pour vous apporter toutes les informations que vous souhaitez.
Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On mettra toutes les coordonnées pour que, justement, on puisse répondre à votre appel. Thierry Lefebvre, merci au Comité français de l'UICN qui nous a aidés à préparer cette émission et à François Porcheron pour sa réalisation. Chers auditeurs, merci bien sûr pour votre fidélité et vos nombreux messages. Continuez à nous écrire via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur vos plateformes préférées et partager nos contenus. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.